La nature continue des événements réels, en dehors de circonstances très extraordinaires, n'est pas illuminée avec précision par les pouvoirs de prescience. L'oracle ne révèle que les incidents de la chaîne historique. L'éternité se transforme. Elle subit l'influence de l'oracle comme celle des suppliants. Que les fidèles de Muad'Dib doutent de sa majesté ou de ses pouvoirs, qu'ils nient ses visions, que jamais ils ne doutent de l'éternité. Gospel de Dune. Hate observait Alia qui venait de sortir du temple et traversait maintenant la plaza, serrée de près par ses gardes, dont le masque farouche dissimulait mal les traits amollis par la bonne chair et la vie facile. Un héliographe d'ornithoptère scintillait dans le soleil au-dessus du temple. Ils appartenaient à la garde royale et leur fuselage était marqué du symbole du poing. Le regard de Hate revint à Alia. Dans cette cité, elle ne semblait pas à sa place, se dit-il. Elle appartenait au désert, aux grands espaces. Une vérité surprenante lui apparut. Alia ne semblait vraiment réfléchir que lorsqu'elle souriait. Cela venait sans doute de ses yeux, songea Hate, en se rappelant son image lors de la réception de l'ambassade de la guilde. Entre les robes et les uniformes extravagants, Alia était apparue vêtue de blanc. Un blanc étincelant, magnifique. Un blanc chaste, pourtant. Il l'avait observée depuis une fenêtre, comme elle traversait un jardin où flottaient les perles d'eau de fontaines chuchotantes et les frondaisons vertes des plantes, sous un belvédère blanc. Elle n'appartenait qu'au désert. Il attendait, le souffle lourd, serrant parfois les poings. La rencontre avec Bijaz avait laissé un malaise profond en lui. L'escorte d'Alia entra dans la pièce voisine de celle où il attendait. Alia pénétra dans les appartements familiaux. Il essaya de se concentrer sur ce qu'il avait troublé à propos d'Alia. La façon dont elle avait traversé la plaza. Oui, elle ressemblait à une proie fuyant quelque dangereux prédateur. Il s'avança sur le balcon et s'arrêta dans la pénombre de l'écran de Plasmeld. Alia, immobile, était appuyée à la balustrade qui dominait le temple. Il suivit son regard. Elle contemplait la cité. Des rectangles, des lignes, des blocs de couleurs et la rumeur des vies. Des tourbillons d'air chaud faisaient vibrer le ciel au-dessus des toits. À l'angle du temple, un enfant jouait à la balle entre deux massifs. Le regard d'Alia, comme celui de Hate, essaya de suivre la balle. En haut, en bas, en haut, en bas. Pareille à la balle, songea-t-elle, elle allait et venait dans les couloirs du temps. Avant de quitter le temple, elle avait absorbé une dose massive de mélange. Jamais auparavant elle n'avait osé en prendre autant. Avant même d'en ressentir les premiers effets, elle avait éprouvé de la peur. « Pourquoi ai-je fait cela ?» se demanda-t-elle. Il fallait choisir entre plusieurs dangers. Était-ce donc cela ? Le mélange était le seul moyen de pénétrer la brume que le maudit tarot de Dune avait répandue sur l'avenir. Il y avait une barrière quelque part. Il fallait la briser. Il fallait qu'elle voie en quel lieu son frère cheminait. Elle commença à percevoir la sensation de fuite si familière. Elle inspira profondément et retrouva un semblant de calme, d'assurance. Le fait de posséder la seconde vue a tendance à rendre dangereusement fataliste, se dit-elle. Malheureusement, il n'existait pas de levier abstrait. La prescience ne connaissait pas de probabilité. Les visions de l'avenir ne pouvaient être traitées comme des formules. Il fallait y pénétrer au risque de sa vie et de son équilibre mental. Une silhouette sortit de l'ombre du balcon voisin. Le Gola. Dans son état de surperception, Alia le vit avec une clarté inhabituelle. Ses traits sombres, si vivants, était dominé par les yeux de métal scintillant. Le Gola était l'union d'effrayantes oppositions. Il était à la fois ombre et incandescence. Il portait en lui le processus qui avait fait revivre sa chair morte, et aussi autre chose. Quelque chose d'intensément pur, innocent. Il était l'innocence assiégée.
Tu étais là depuis longtemps, Duncan ?
Il faut donc que je sois Duncan, dit-il.
Pourquoi ? Ne me pose pas de questions.
Et elle songea en le regardant que les Tleilaxu avaient parfaitement soigné chaque détail de leur gola.
Seuls les dieux peuvent risquer la perfection en toute sécurité, dit-elle. Pour un homme, c'est chose dangereuse.
Duncan est mort, dit-il, souhaitant qu'elle ne le nomme plus ainsi. Je suis Hate.
Elle se demanda ce que lui révélaient ses yeux artificiels. À cette distance, elle remarquait de minuscules points noirs sur le métal lisse. Des facettes? Brusquement, l'univers flamboya tout autour d'elle et vacilla. Elle posa la main sur la balustrade tiède. Le mélange se propageait rapidement.
« Êtes-vous malade ?» demanda Hate.
Il se rapprocha d'elle. « Qui parle ?» se demanda-t-elle. « Est-ce Duncan Idaho, ou bien le Mentat Gola, ou encore le philosophe Zensuni, ou bien le pion du Bene Tleilax plus redoutable que tous les navigateurs de la guilde ?»
Seul son frère savait.
À nouveau, elle regarda le visage du Gola. Il y avait en lui quelque chose de latent. Il était comme saturé de puissance qui transcendait leur existence commune.
« Par ma mère, dit-elle, je suis Bene Gesserit. Le sais-tu ? » ?
Je le sais.
Je dispose de leur pouvoir et je pense comme elles pensent. Une part de moi accorde une primauté sacrée au programme de sélection génétique.
Elle scia. Elle commençait à dériver librement dans le temps.
On prétend que le Bene Gesserit n'abandonne jamais, dit Hate.
Il l'observait attentivement, remarquant la blancheur de ses phalanges crispées sur la balustrade.
Ai-je trébuché ? Demanda-t-elle.
Son souffle était profond et chacun de ses gestes était tendu. Ses yeux étaient troubles.
Lorsque l'on trébuche, dit-il, on peut retrouver son équilibre en sautant par-dessus l'obstacle.
Le Bene Gesserit a trébuché, dit-elle. Il essaie de retrouver son équilibre en sautant au-delà de mon frère. Les sœurs veulent l'enfant de Shiny ou le mien.
Vous portez un enfant ?
Elle lutta pour se stabiliser dans l'espace-temps et répondre à cette question.
Un enfant ?
Quand ? Où ?
Je le vois, chuchota-t-elle.
Elle s'écarta de la balustrade et comme elle tournait la tête, elle vit que le Gola avait un visage de sel. Deux disques de plomb à la place des yeux et qu'il projetait des ombres bleues.
« Que vois-tu avec ces yeux ? » souffla-t-elle.
« Ce que voient d'autres yeux ?»
Les mots semblaient teintés à ses oreilles, accélérant sa perception. Elle se déployait à travers l'univers, traversée des courants du temps.
« Vous avez pris de l'épice, » dit le Gola. « Une forte dose. »«
Pourquoi ne puis-je le voir ? »
murmura-t-elle. Prisonnière de la matrice de toute création.
Dis-moi, Duncan, pourquoi ?
Qui ne pouvait-vous voir ?
Le père de mes enfants. Je suis perdu dans la brume du tarot. Aide-moi.
La logique du Mentat produisit un résultat. Le Bene Gesserit désire un accouplement entre vous et votre frère. Cela fermerait le cycle. Elle eut un gémissement.
L'œuf dans la chair.
Elle baignait dans la glace, tout à coup, mais une chaleur infernale la suivait. L'amant invisible de ses rêves de ténèbres. La chair de sa chair que l'oracle ne pouvait lui révéler. En arriverait-il là ?
La dose que vous avez absorbée peut-elle être dangereuse ? Demanda le Gola.
Quelque part en lui, quelque chose luttait pour exprimer une terreur absolue à l'idée qu'une femme attrayée pût mourir, que Paul dut apprendre qu'une femelle de sang royal était parti.
Tu ne sais pas ce que c'est que de chasser l'avenir, dit Alia. Parfois, j'ai des visions de moi-même, mais je ne puis voir à travers moi.
Elle baissa la tête.
Quelle quantité avez-vous absorbée ? Demanda-t-il.
La nature abhorre la préscience.
Elle releva la tête et le regarda.
Savais-tu cela, Duncan ?
Il prit une voix douce et calme, comme s'il s'adressait à un très petit enfant.
« Dites-moi combien d'épices vous avez prises. »
Et il posa sa main gauche sur son épaule.
« Les mots sont des instruments grossiers, primitifs et ambigus, »
dit-elle en s'écartant de lui.
« Il faut me répondre. Regarde le bouclier, Duncan, »
ordonna-t-elle en tendant la main.
Et elle se mit à trembler devant la vision ravage d'un paysage en effondrement, d'un château de sable balayé par d'invisibles vagues.
Elle détourna les yeux et fut paralysée par le visage du Gola.
Ses traits se déformaient, changeaient. Il était jeune, vieux, jeune à nouveau. Il était la vie même, infinie, établie.
Elle voulut fuir, mais il lui prit le poignet.
« Je vais appeler un docteur. »«
Non, il faut que j'aie ma vision, il faut que je sache. »«
Vous allez rentrer à présent. »
Elle baissa son regard sur sa main. Là où leur peau se touchait, elle éprouvait une présence électrique, attirante et effrayante. Elle échappa brusquement à son étreinte et cria
« Personne ne peut arrêter le tourbillon. Il vous faut un docteur. Mais tu ne comprends pas, ma vision est incomplète. Il n'y a que des fragments. Ils sautent, ils disparaissent parfois. Il faut que je me rappelle le futur, tu ne comprends donc pas ?»«
Qu'est-ce que le futur si vous mourrez ?» dit-il en l'entraînant doucement vers sa chambre.
« des mots,
murmurait-elle.
Je ne peux l'expliquer. Chaque chose en engendre une autre. Mais il n'y a pas de cause, pas d'effet. Nous ne pouvons pas laisser l'univers tel qu'il était. De quelque façon que l'on essaie, il y a une faille.
« Étendez-vous là, » ordonna Haight.
« Il est si borné, » se dit-elle. Des ombres fraîches l'enveloppèrent. Ses muscles étaient comme des vers qui rampaient sur son corps. Le lit, sous elle, n'avait pas de substance. Seul l'espace était permanent. Rien d'autre n'avait de substance. Bien des corps emplissaient le lit et tous étaient le sien. Le temps était devenu une sensation multiple, saturée. Aucune réaction isolée ne se prêtait à l'abstraction. C'était le temps. Il bougeait. L'univers dans son ensemble glissait en arrière, en avant, latéralement.
« Cela n'a pas l'espace d'une chose, » essaya-t-elle d'expliquer. « On ne peut être dessous ou autour. On ne peut y appliquer un levier. Nulle part. »
L'espace autour d'elle vibrait de présences multiples. Plusieurs de ces présences lui tenaient la main. Elle regarda sa propre chair mouvante et suivit le geste d'un bras flou vers un visage fluide. Duncan Idaho. Ses yeux étaient... C'était faux, mais c'était Duncan Idaho. Enfant, homme, adolescent, enfant, homme, adolescent. Il y avait de l'inquiétude dans chacun de ses traits.
« Duncan, ne crains rien, » murmura-t-elle.
Il lui serra la main un peu plus fort. « Restez tranquille. » Il pensa, elle ne doit pas mourir. Elle ne doit pas. Aucune femme atréide ne doit mourir. Il secoua la tête avec violence. De telles pensées étaient un défi à la logique mentat. La mort était nécessaire à la continuité de la vie.
Le Gola même, pensa Alia.
Et cette pensée devint une assise de pierre à laquelle elle se cramponna. Un visage familier dans un endroit réel. L'une des chambres des appartements. Une personne fixe, immuable, faisait quelque chose avec un tube quelque part dans sa gorge. Elle lutta pour ne pas vomir.
Il était temps,
dit une voix. Elle l'identifia comme étant celle d'un médic de la famille.
Vous auriez dû m'appeler plus tôt.
Il y avait de la méfiance dans cette voix. Le tube quittait sa gorge. Elle l'entrevit. Un mince serpent brillant.
L'injection la fera dormir, reprit le médic. Je vais appeler une de ses servantes pour...
Je vais rester auprès d'elle, dit le Gola.
Cela me paraît peu probable. Reste, Duncan, chuchota Alia.
Elle sentit qu'il lui tapotait doucement la main. Il l'avait entendue.
« Madame, commença le médic, il serait préférable que... »«
Vous n'avez pas à me dire ce qui est préférable. »
Elle avait la gorge douloureuse.
« Madame, la voix du médic était lourde d'accusations. Vous connaissez les dangers du mélange. Je ne puis m'empêcher de croire que quelqu'un vous en aura donné sans... »«
Idiot ! Nierais-tu mes visions ? Je sais pourquoi je l'ai pris. »
Elle porta la main à sa gorge.
« Sors, immédiatement. »
Le médic quitta son champ de vision. Elle entendit sa voix.
« Cela sera rapporté à votre frère. »
Il quitta la pièce. Elle concentra son attention sur le Gola. La vision était claire à présent, au centre de sa perception. Un milieu de culture à partir duquel le présent croissait vers l'extérieur. Et le Gola se mouvait dans ce jeu de temps. Il n'avait plus rien de cryptique. Il apparaissait nettement sur un fond reconnaissable. Il est le creuset, se dit-elle. Le danger et la sauvegarde. Elle frissonna. C'était la vision même que son frère avait eue. Des larmes qu'elle n'avait pas appelées lui brûlèrent les yeux. Elle secoua la tête. Non, pas de larmes. Les larmes étaient un gaspillage d'eau et elles brouillaient le flux de la vision. Il fallait arrêter Paul. Une fois seulement, elle avait franchi le gouffre du temps et placé sa voix sur son chemin. Mais ici, tout était trop oppressant, trop changeant. La trame du temps traversait son frère ainsi que des rayons lumineux traversent une lentille, et il le savait. Le faisceau était concentré sur lui et il empêcherait toute variation, toute déviation.
« Pourquoi ? » murmura-t-elle. « Est-ce de la haine ? S'en prend-il autant parce qu'il en souffre ? Est-ce donc cela, de la haine ?»
Le gola, croyant avoir entendu son nom, se pencha sur elle. « Madame ?»
« Si seulement je pouvais chasser cela de moi, »
gémit-elle.
« Je n'ai pas voulu être différente. »«
Alia, je vous en prie, dormez !»«
J'aurais voulu pouvoir rire, »
souffla-t-elle, et des larmes roulèrent sur ses joues.
« Mais je suis la sœur de l'empereur que l'on adore comme un dieu. Les gens me craignent. Jamais je n'ai voulu cela. »
Il essuya ses larmes.
« Je ne voulais pas appartenir à l'histoire. Je voulais seulement que l'on m'aime. » Et aimé.
Tu es aimé, dit-il.
Ah, loyal Duncan.
Je vous en prie, ne m'appelez pas ainsi.
Mais tu es loyal.
Et la loyauté est une denrée de valeur.
On peut la vendre, mais pas l'acheter.
Je n'aime pas votre cynisme, dit-il.
Je maudis ta logique.
Dormez.
M'aimes-tu, Duncan? Demanda-t-elle.
Oui.
Est-ce là encore un de tes mensonges? Un de ces mensonges plus faciles à croire que la vérité? Pourquoi ai-je peur de te croire?
Vous craignez mes différences autant que les vôtres.
Sois un homme et non un Mentat.
Je suis un Mentat et un homme.
Serai-je ta femme?
Je ferai ce qu'exige l'amour.
Et la loyauté?
Et la loyauté.
C'est en cela que tu es dangereux,
dit-elle. Il fut troublé par ses paroles. Il n'en laissa rien transparaître sur son visage, aucun de ses muscles ne frémit. Mais elle sut. La mémoire vision le lui révéla. Pourtant, elle eut l'impression qu'une partie de la vision lui échappait, qu'elle aurait dû se rappeler autre chose à propos du futur. Il existait une autre perception qui ne s'exerçait pas par les sens, quelque chose qui investissait l'esprit à partir de nulle part, tout comme la prescience. Quelque chose qui résidait dans les ombres du temps. Et qui était imprégné d'une infinie souffrance.
L'émotion. C'était cela, l'émotion.
Elle était apparue dans la vision, non directement, mais comme un produit à partir duquel elle pouvait deviner ce qui existait au-delà. Elle avait été possédée par l'émotion. La peur, le chagrin, l'amour. Ils étaient là dans sa vision, rassemblés en un corps unique, épidémique, primordial et dominateur.
« Duncan, ne m'abandonne pas, »
dit-elle. « Dormez, ne luttez pas.
Je dois... Il est la proie de son propre piège. Il sert la puissance et la terreur. La violence, la déification sont la prison qui le retient. Il va perdre tout. Il va être déchiré en pièces.
Parlez-vous de Paul ?
Ils vont l'amener à se détruire, »
haleta-t-elle en essayant de se redresser.
C'est trop de poids pour lui, trop de peine. Il le persuade et l'entraîne, l'écarte de l'amour. Il crée un univers dans lequel il refusera de vivre.
Pourquoi fait-il cela?
Lui? Tu ne comprends rien. Il fait partie du plan. Il est trop tard. Trop tard. Trop tard.
Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle sentait sa perception décroître, niveau après niveau. Elle se stabilisa au niveau de son nombril. Le corps et l'esprit se séparèrent pour se rejoindre en une réserve de vision relique. Mouvement, mouvement. Elle perçut un rythme fœtal, celui de l'enfant de l'avenir. Le mélange l'imprégnait encore, la laissait encore dériver dans le temps. Elle savait qu'elle avait goûté la vie d'un enfant non encore conçu. Une chose était certaine concernant cet enfant. Il subirait le même éveil qu'elle avait subi. avant même de voir le jour, il serait une entité consciente, pensante.